Et bienvenue sur Radio Grand Air en ce mois de juin, la langue et la culture occitane comme tous les mois sur le www.radiograndair.fr avec nos deux experts de la radio. Jean-Claude Dugros, notre linguiste préféré, et Marie-Hélène Désert, qui aussi se passionne pour la langue occitane. Bonjour à tous les deux, comment ça va?
Bonjour.
Ça va très bien.
Depuis le mois dernier.
Être qualifié d'expert, on a bien fait de se lever ce matin.
Oui, qu'on va y philomène.
Et on va parler d'un joli rendez-vous qui se profile à l'horizon, mon cher Jean-Claude, ça sera le mois prochain. C'est ancré dans le marbre, évidemment, 103e édition de la Félibrée cette année.
Ah ouais, la Félibrée Jade, dans Bournal, au Périgord. 103 ans, 103e, pas 103 ans, parce que malheureusement, pendant les guerres, etc., mais depuis 1903 quand même, c'est pas mal quand même, comme il y a une continuité de cette grande fête occitane, et c'est vrai que les gens viennent de loin, et c'est particulier, c'est quelque chose. Quand on rentre dans la Félibrée, on est dans un monde différent, on est dans un bain linguistique, costume,
téléportation à travers le temps,
ouais. Costume, musique, voilà, donc stand, il y a des gens, il y a des vieux métiers, voilà. Alors c'est vieille, non, c'est pas forcément des choses vieilles, ce sont des choses anciennes, mais bon, qui aujourd'hui continuent, quoi. Je veux dire, les gens, ils sciaient avec des passe-partout, mais aujourd'hui on scie différemment, mais bon, il faut respecter les gens qui ont fait beaucoup de travail, on a construit des cathédrales avec les vieux outils, les vieux métiers d'autrefois.
Et nous aurons donc une invitée dans quelques instants, Jean-Claude, pour nous parler de la Félibrée.
Oui, c'est la présidente du Bournal, c'est Christelle Grégoire, voilà, qui depuis qu'elle est arrivée, elle a apporté, il faut le dire, un sang nouveau, et vraiment, c'est très intéressant d'avoir une jeune présidente du Bournal. Alors, premièrement, une dame pour la première fois, et deuxièmement, bon, jeune, mais qui a tout à fait l'esprit. Elle a l'esprit des anciens, et voilà. Donc on peut dire que c'est une continuité, et le Bournal continue son chemin, voilà, avec vraiment des manifestations de qualité, et avec toujours quelques petites nouveautés, voilà, j'espère qu'elle va nous en parler.
Alors, on retrouve d'autres invités dans quelques instants. Alors le sommaire de l'émission, mis à part la Félibrée, Jean-Claude, oui. Marie-Hélène, nous allons parler évidemment.
Mais on parlait de l'almanach toujours. Voilà,
de ce mois de juin. Ouais.
Voilà, le mois de juin. Ouais. Le mois de juin, c'est un des plus jolis mois, un des plus agréables mois qui existe. Voilà. Puis on va parler. Je vais vous parler un peu de toponymie. Je vais vous parler des lieux-dits qu'on appelle redondants. On appelle ça une tautologie. C'est-à-dire, ça veut dire la même chose. Comme un moncuc. Voilà. Donc, ce sont deux racines différentes qu'on n'a pas su que c'était deux racines différentes. Et donc. Voilà, on a mis deux syllabes, et les deux syllabes veulent dire la même chose. Et puis Marie-Hélène va nous parler de...
Et du répunchou.
Et qu'est-ce qu'on le répunchou?
Ah, moi je te le dirai tout à l'heure. Parce que d'abord, je crois que tu as des choses à nous dire sur...
Sur
l'éphéméride.
Oui, bien sûr, oui.
Etc.
Voilà. D'accord. Mais on commence par de la musique ou
qu'est-ce qu'on fait? Allez. Volontiers, mon cher Jean-Claude, on va marquer une première pause musicale avec Humus Machine.
Humus Machine, voilà. Je crois d'ailleurs que ce sont des gens qu'on trouvera à la Félibrée le mois de juillet.
Voilà, on les écoute et on se retrouve juste après.
Liure, la duama di la terra, liure, a prendre la lentur, liure, e piaf rugia la grano, liure, reconnaisse l'amour, liure. Accepta l'umirai libre, è meraviglia di vivere libre, e segre su pantai libre. lliure me lo donen, lliure. El año que me hiperon, lliure. De tu modo ayer, lliure. Lliure de tutto pensado, dictado, de tu formataje, de tutto religio. Lliure de tutto color, de choisir l'amour, loin de tutto censuro. Pensato, dictato de tu formatage, de tu tuo dictatura. Libre de creda viena, de lucha perdu a tu Mariel Franco. Libre. Libre. Libre.
Bien sûr, aimé ce titre à l'instant sur Radio Grand Air dans l'émission de la culture la langue occitane. C'est un groupe périgordais encore plus sympa de les accueillir ici à la radio.
Oui, oui.
C'était Humus Machine.
Voilà, Guillaume Surpa, donc, qu'on connaît bien. C'est le fils de Jaume Surpa, qui était un militant de la première heure en Périgord, avec l'IEO. Il fait partie des gens qui ont fondé l'IDEO en 1969, je crois, 1970. Voilà, et c'est quelqu'un qui a toujours milité, qui a toujours, il a écrit, il a traduit, et on le voyait toujours dans les manifestations. Voilà, et on est heureux que Guillaume ait pris la suite, et en plus de ça, c'est quand même la musique de qualité. Bravo. Et on le salue, Guillaume. Alors, nous sommes au mois de juin, Christophe.
Et oui, le temps passe vite. Avec les beaux jours aussi qui sont là.
Il y a quelques jours, on se serait plutôt cru à novembre. Hein.
Il y a un petit décalage, effectivement.
Mais là, voilà. Dans le mois de juin, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Alors, Michel Chadeuil nous dit, en son début, juin est prairial, et les proverbes sont en plein accord avec le calendrier républicain. Al mes de juin, la daille alpune. Au mois de juin, la faux au point. L'herbe courte, sèche, et pigiado, à une juin, est tutto daillado. Qu'elle soit courte, sèche ou qu'elle ait mis les pieds, l'herbe en juin est toute fauchée. T'apprends des plats foutus quand en juin n'est pas herbude. Ta prairie est bien fichue si elle n'est pas couverte d'herbe en juin. Et ce plat groula ou le prat qui en juin nous va ou le dahlia. Le pré qui en juin ne mérite pas d'être fauché ne vaut pas grand-chose. Voilà, donc c'est la sagesse paysanne de nos anciens. Et alors, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? On a le 8 juin, c'est la Saint-Médard. Et
ah oui,
et nos anciens étaient très très attentifs à la Saint-Médard, Saint-Barnabé, etc. Alors voilà ce que nous dit Michel Chadeuil. Donc Saint-Médard, d'abord, c'est Saint-Médard de Noyon. Bon, donc c'est pas Saint-Médard sur Drône, c'est Saint-Médard de Noyon. Ce saint bien connu que l'on attend chaque année avec crainte porte en occitan le nom de Méard. Et oui, Méard, disent là-bas. Saint-Méard en Haute-Vienne, Saint-Méard de Drône et Saint-Méard de Gurson en Dordogne. Et même Mère, Saint-Mère la Breuille en Creuse, Saint-Mère de la Plot et Saint-Mère les Oussines en Corrèze. Voilà. S'il pleut au père Saint-Mère, le brave étain viendra tard. S'il pleut le jour de la Saint-Médard, le beau temps, donc l'été, viendra tard. Quand pleut au père Saint-Méard, pleut 40 jours d'arrière, sur le voulant et sur le daille, manque si Barnabé ou les coupe ou l'oubec. Et voilà notre histoire de Saint-Médard et Saint-Barnabé. Quand il pleut le jour de la Saint-Médard, il pleut 40 jours à la suite, sur la faucille ou sur la faux, à moins que Saint-Barnabé ne lui coupe le bec. Alors sur les deux derniers vers, au lieu de dire lui coupe le bec, on peut dire lui tuste sous le bec, barre le robinet, lui coupe le bec, etc. Parmi les nombreuses versions de ce proverbe bien connu, nous citons ici celle qui nous a paru la plus complète. Le nombre de 40 jours et 40 nuits ne doit pas être pris au pied de la lettre. 40 jours, cela représente une période que l'on trouve longue et que l'on souhaiterait plus brève. Il en est ainsi approximativement du déluge, du carême et de la quarantaine. Voilà, c'est vrai qu'on dit « j'ai vu 36 chandelles, oui. On ne les a pas comptées ». Voilà. Quand on dit « il y en a des 100 et des 1000 », voilà, je pense que c'est pareil. Donc 40 jours, c'est une image. Quoi. Voilà. S'il pleut sur Saint-Méard, pleut 40 jours mai tard sur l'Oufé et sur l'Oudaï. S'il pleut sur la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard sur le Fouin et sur la Faux. Simple variante du proverbe précédent, qui n'est là que pour faire remarquer qu'elle est très locale, originaire de quelques points précis du nord du Périgord et du Limousin, où tard rime avec mer. Et oui, on dit Saint-Méard, et on dit alors Saint-Méard, 40 jours maïter. Voilà, le Limousin, ce qui est assez fréquent, de même ce qui est plus rare qu'avec d'ail, prononcé d'air. Voilà, donc le Saint-Médard, Saint-Barnabé. Alors Saint-Barnabé, c'est le 11 juin. Ce saint-là vient corriger les excès de Saint-Médard. En fait, il est également invoqué dans le cas contraire. Les années de sécheresse précoce, on lui demande de la pluie. Tapa au Kenyo, Bernabeu, au Pratadaio. Si peu qu'il y en ait, du fouet, bien sûr, pour Barnabé, auprès de la Faux. Et le 13 juin, c'est Saint-Antoine de Padoue. Quand Antoine rit sur la treille, l'ougo danse en la bouteille. Quand Antoine rit sur la treille, le verre danse avec la bouteille. Ce qui veut dire que c'est une façon imagée de dire que s'il fait beau en ce jour, la future vendange sera bonne. Voilà, voilà ce qu'on peut dire pour le mois de juin. Et c'est très riche le mois de juin parce que c'est vrai que c'est là où la nature éclate, où enfin, en principe, c'est là où il y a les fleurs.
Les jours allongent.
Je me souviens quand j'étais jeune, il y a bien longtemps, on faisait la fête des fleurs. Ah, oui. C'est-à-dire que c'était le premier dimanche de juin. Ça se passait dans la cour de la préfecture à Agen. Et on nous mettait face à face, les garçons et les filles des écoles. Donc, et il fallait coller des pétales de roses. Et on faisait une bataille de roses, voilà. On se battait avec des fleurs, ça, on appelait ça la fête des fleurs, la bataille des fleurs. C'est un beau souvenir.
Voilà, et généralement, au mois de juin, on trouve beaucoup de manifestations. On fait des concours de vélo fleuri, toujours ça. En lien avec les fleurs, où on célèbre le printemps aussi, des balcons fleuris, par exemple. Ouais. Ça se fait par chez nous, du côté de Sainte-Foy-la-Grande, par exemple.
C'est vrai, oui. Bon, mais écoute, on va encore écouter un peu de musique.
On va mettre beaucoup de couleurs dans la radio aussi.
Oui. Alors, on va écouter maintenant Abal à la rivière. Abal à la rivière. C'est de l'excellent occitan. Ça veut dire Aval à la rivière. Et la chanson s'appelle Aval à la rivière.
Tout simplement.
Quelle imagination.
On écoute et on se retrouve juste après.
Abal, Abal à la rivière. Y'a eu prat à Daria, Abal à la rivière, y'a eu prat à. Y'a eu prat à Daria, Abal à. Abal à la rivière, y'a eu prat à. Y'a eu prat à Daria, Abal à la rivière, y'a eu prat à. Y'a eu prat à Daria, Abal à la rivière, y'a eu.
Sunt trei zone dai lai de che l'am pensata via Abala la rivieria e prata d'aria Sunt trei zone fie d'on
Abala la rivieria e prata d'aria Sunt trei zone dai lai de che l'am pensata via
Danse à l'instant à balle sur Radio Grand Air dans l'émission de la langue et la culture occitane. Jean-Claude Dugros, Marie-Hélène Désert.
Oui, ben on va donner la parole à Marie-Hélène qui va nous parler d'une plante. Oui, c'est une plante, c'est pas.
Alors tu me disais qu'elle n'était pas très connue ici.
Je crois pas, et on va voir. Alors, si on a des auditeurs qui nous écoutent, qui voient.
Voilà. Sûrement, parce que je pense quand même qu'elle est, elle est peut-être moins connue que dans d'autres régions. C'est le tamier.
Peut-être pas sous, voilà, elle n'est peut-être pas connue sous le nom occitan que nous.
C'est bien
on
possible,
connaît.
Puisqu'ici l'occitan a disparu plus vite que dans d'autres régions, donc c'est le tamus communis, tamier, ou l'herbe aux femmes battues.
On l'appellerait comme ça, tu crois?
Je ne pense pas. mais le nom tamier est quand même connu,
ah oui, oui.
Hein, et malgré tout par les gens qui connaissent un petit peu les plantes et qui se promènent.
Mais pourquoi l'herbe aux femmes battues?
Alors parce qu'il semblerait qu'elle avait des vertus pour faire disparaître les contusions, les bleus.
Ah bon?
Et j'imagine que les femmes étaient peut-être un peu plus souvent battues que maintenant, bien que le cas de plaintes, etc., laisse malheureusement regretter que ce soit une coutume toujours
en
vigueur.
Ça, absolument, oui.
Voilà, donc le tamier est réputé, quand il est écrasé et enduit sur un bleu, l'aider à disparaître.
Ah ben ça alors.
C'est ce qu'on dit. Alors à ne pas confondre avec l'herbe au gueux, qui est la clématite sauvage, qui elle, quand on s'en enduit la peau, peut produire des ulcérations, des cloques, des boutons, des rougeurs, etc. Et on l'appelait herbe au gueux, puisque on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les mendiants s'en enduisaient la peau pour faire passer leurs lésions, pour...
ah oui.
Voilà, pour qu'on ait pitié d'eux,
pour
qu'on leur donne quelques sous. Voilà. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Alors le tamier, comme la brionne, est toxique et on peut les confondre. Ce sont deux lianes avec des feuilles découpées, un peu pointues, un peu arrondies sur leur lobe. La différence, c'est que la brionne est légèrement poilue, légèrement duveteuse. Le tamier a une feuille plutôt luisante et d'un vert un peu plus profond, un peu plus vif, un peu plus émeraude. La grande différence aussi, c'est que les baies de la brionne sont plus petites que celles du tamier. Les deux aiment quand même des environnements, ils grimpent sur des supports, donc dans des buissons, dans les sous-bois. Alors la brionne, elle, ne se consomme pas du tout, sauf la racine pour des raisons, plutôt, alors c'est un usage vraiment pharmaceutique. La brionne, elle est très dangereuse elle-même. D'ailleurs, il est absolument interdit d'en cultiver. La brionne a aussi cette particularité qu'elle a une abeille spécifique qui vient butiner et se reproduire. C'est Andrena florea, je crois.
Donc il y a un miel particulier alors.
Alors, je suppose qu'il ne faudrait pas manger de miel exclusif de la brionne. Mais enfin, ça fait partie, ce n'est pas une abeille dont on consomme le miel. Andrena florea, c'est une toute petite abeille qui doit faire 1 centimètre de long.
D'accord.
Et seule la femelle est exclusive de la brionne. Mais là, on parle du tamier, qui lui ressemble beaucoup, lui, et qui est plutôt dans les sous-bois. C'est-à-dire, si tu plantes une haie, tu vas te retrouver probablement au bout de quelque temps de la brionne.
D'accord.
Le tamier, il est beaucoup plus dans les bois. Et alors, il a une autre particularité, le tamier, qui est tout aussi une liane, bien entendu. Donc, il a les jeunes pousses se mangent. Mais il faut quand même bien les cuire, parce que sinon c'est quand même assez toxique.
Aussi, ah
et oui. Tout le reste de la plante est très toxique. Donc on ne mange que les pointes, et c'est pour ça qu'on l'appelle repunchu, à cause de la punche. La pointe.
Oui.
Donc effectivement, ça ressemble un petit peu à une asperge sauvage. Mais alors beaucoup plus souple. Quand on le prend en main, on casse très facilement la pointe.
Alors il faut ramasser beaucoup pour faire...
Ah oui, il faut en avoir une petite, belle poignée pour pouvoir en faire soit une omelette, soit manger en vinaigrette avec des œufs durs. Il y a quand même un certain nombre de recettes possibles. Et autre caractéristique du tamier, c'est qu'il a une odeur absolument unique pour une plante. Quand on écrase la pointe, il sent le sperme.
Ah bon ?
Et je me souviens d'une promenade botanique du côté de Villeneuve-sur-Lot. Il y avait là une jeune dame avec sa fille, et quand on a écrasé ça, qu'elle l'a écrasé et qu'elle l'a senti, elle est devenue livide. Et on ne l'a plus entendue de l'après-midi. Elle était profondément choquée. Preuve que c'est quand même très, très évocateur.
Ah bon ?
Donc, si on veut distinguer la brionne et le tamier, c'est quand même très facile. Il suffit de froisser un petit peu et on se rend compte immédiatement. Donc, c'est quand même très, très toxique. Il y a un grand nombre d'alcaloïdes dedans. Il faut quand même faire très, très attention quand on le consomme. Dans tous les cas, quand on le cueille, il faut quand même bien se laver les mains, éviter de manger des cerises ou des framboises juste après. Hein. La racine est quand même aussi très, très toxique. Il y a des saponines dans les pousses, de toute façon dans toutes les parties de la plante. Et la plus forte concentration, bien sûr, est dans les baies. Donc il faudra quand même faire très, très attention. Les enfants ne doivent pas, il faut le rappeler toujours, consommer les jolis petits bonbons rouges qu'on trouve dans les haies, parce que ce soit la brionne ou le tamier, c'est hyper, hyper dangereux. Alors, par exemple, avec le tamier, si une seule baie a été sucée, dit le livre que j'ai entre les mains, un simple glaçon peut limiter l'inflammation. C'est pour vous dire à quel point c'est rapidement désagréable. Si ensuite les baies ont été ingérées, en plus des irritations buccopharyngées, eh bien, on va trouver des nausées, une hypersalivation, une soif intense, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, etc., etc. Donc, ça peut devenir mortel, avec paralysie, coma et décès. Je suis désolée parce que j'ai l'impression de vous avoir dissuadé de manger du tamier, Christophe et Jean-Claude.
Je crois que...
Alors qu'en
on ne connaissait pas beaucoup, mais finalement...
Alors qu'en fait, les jeunes pousses, une fois cuites, sont délicieuses.
Ah
j'en
bon
ai mangé, c'est absolument délicieux. Alors, je tire toutes ces informations qui complètent une première expérience dans les bois que j'avais faite il y a quelques années, d'un petit livre qui s'appelle « Le repunchu ». Kezako, le tamier du buisson à l'assiette, c'est de Michel Poux, Anne-Marie Ranté-Poux, qui est pharmacienne, et c'est aux éditions Ventéral.
Ah oui.
Alors, j'ai une petite réserve sur ce livre, c'est que j'ai l'impression quand même que l'auteur est quand même un petit peu misanthrope. Parce qu'alors, C'est-à-dire que le simple promeneur, le néo-rural, le touriste sont mis à rude épreuve. Il y a quand même des critiques très, très, très acerbes sur le promeneur qui n'est pas un averti du tamier. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, j'ai trouvé. Sinon, alors, le livre coûte 12 euros. Vous pouvez le commander sur Internet aux éditions Ventéral. C'est très sympathique. Il y a quand même là-dedans des informations très importantes et tout un volet sur sur les aspects pharmaceutiques et aussi sur l'aspect culinaire. Il y a même des recettes et on nous conseille même quoi boire avec. Hein, c'est quand même sympathique, non?
Oui.
Donc voilà, le Repunchu Kezako aux éditions Ventéral.
Eh bien, merci docteur.
Voilà, donc, bon, tu disais que dans certaines régions,
ah oui, oui, oui,
on l'a beaucoup consommé
les Aveyronnais, ils sont très très friands de ça. Ils vont même loin pour chercher des Repunchu.
Voilà, c'est pas seulement parce qu'on manque de nourriture, c'est aussi parce que c'est une véritable spécificité.
Et puis c'est naturel.
Oui. Voilà, c'est alors vraiment, ça ne pousse pas aux abords des champs, hein, c'est vraiment dans les bois.
Oui, oui.
Et puis, ça a un goût tout à fait particulier qui est très agréable. Voilà.
Bon.
Et très distinct de l'odeur. Voilà, pour rassurer les personnes un petit peu suspicieuses.
On pourrait demander à nos auditeurs éventuellement s'il y en a qui connaissent le Repunchu.
Comment il le cuisine,
ou qu'il nous mette un petit mot sur un mail.
Alors peut-être que c'est encore la saison. Là, si les pousses sont un peu trop développées, en fait, il faut que le bout de la branche, le bout de la liane, que les feuilles ne soient pas encore développées. On les aperçoit, elles sont toutes petites, mais quand les feuilles sont développées, ça ne se consomme plus. Voilà.
Bon, ben on va...
Merci Marie-Hélène pour ces explications.
Je vous laisse perplexe là.
Bah, un peu, oui. Pour se remettre.
Bon, écoute, je suis encore là après en avoir goûté.
Oui.
Donc, tu vois, c'est que.
Bon, c'est rassurant.
Ou alors la bête est résistante.
Eh bien, on va écouter notre ami Jean-Paul Verdier, qu'on regrette beaucoup parce qu'il nous a quittés il y a maintenant quelques années, en juin 2018, je crois. Voilà, il va nous chanter L'Aïsarpe des Fiocs. L'écharpe de feu.
Voilà, on va l'écouter. Et puis juste après, on retrouvera notre invité, Jean-Claude, qui est Christelle Grégoire, que tu as interrogé au sujet de la filibrée. Elle est présidente du Bourna, on le rappelle, et on la retrouve juste après sur Radio Grand Air. À tout de suite.
Attendu.
Perti l'oriso per i vei d'umò chi lo feno a lei sarpo de fio color de serieso e perfi de pa sove pa perché te dice co fenem plo ai piano regal del mondo fenno nido di livello prio e a pacap ne placio a porta to non m'avereo mi evocherò canciù in beusur feirello picco del sole son turca di l'esper per sentito chi cumulo vino è lo cancio dell'iso di Rossell
coi per te l'uviso per vieie du mon
lo feno a lei sarpo de fio
color de cerieso e perfume de
po' sciave pa perché te dice no. Fè l'implor, ma è piano regalo del mondo, se non è, non è in liber prio. Io cacà, e plascio a portar, tu non, ma vero, mie bocche lo canciù. Che bel sole, bello picco del sorello, o cadir, son tur cadir l'esper. E senti, no chi come lo vino bel, la canciù, vero iso di Rousseau. Canciù, vero iso di Rousseau.
Bonjour Christelle.
Oui, bonjour, bonjour à toi, bonjour à l'équipe.
Oui, et voilà, donc on va parler de la Félibrée de Tocane-Saint-Apre. Voilà, je pense que d'après les échos qu'on a pu avoir, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'animation, on en parle, on a une reine extraordinaire. Pour la première fois depuis bien longtemps, on a une jeune fille qui parle occitan. Et voilà, qui, ça fait vraiment très très plaisir. Voilà, mais si tu veux bien, on va parler un peu de ce programme. Donc, c'est encore une fois, je pense que le programme est riche. J'ai eu l'occasion de le voir. On peut le trouver sur un site, sur...
Alors, le programme, il n'est pas encore diffusé, puisqu'on vient juste de le finaliser.
Oui, oui, oui.
Il sera en ligne à compter de là, très prochainement, dans quelques jours. Et dans tous les cas, toutes les informations sur nos deux pages Facebook, le Bournat du Périgord et la page du comité Félibrée Tocane 2024.
D'accord, d'accord. Donc, on aura ça dans quelques temps. On aura le programme complet. Alors, voilà, c'est un programme qui est du vendredi, le samedi, le dimanche. Ça c'est pour la Félibrée proprement dite, mais bon, il y a quand même quelques animations avant qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu.
Mais t'as raison Jean-Claude, en fait, ce que je tiens à souligner tout d'abord, c'est qu'il y a eu un très très gros travail de fait par les équipes de bénévoles de Tocane, avec, c'est remarquable, beaucoup d'animations qui ont été faites en pré-Félibrée, et puis des animations très riches et variées. On a eu notamment des baltrades, on a eu le repas de la reine, bien évidemment, ça c'est un incontournable,
oui.
Mais on est également parti sur beaucoup de conférences, de toponymie autour de la Dronne, hein, qui est notre thème cette année,
oui.
Et puis, tu es intervenu également à Tocane, Jean-Claude, sur d'autres conférences, et tu reviendras pendant la Félibrée, je tiens à le souligner.
Oui.
Et puis, on aura des animations tout à fait variées, puisqu'on a M. Mazot, qui est meunier, enfin, qui était l'ancien meunier du Moulin de la Dronne, qui a fait des interventions. Et puis, on aura une dernière animation, là, juste quelques jours avant la Félibrée, avec une séance de yoga qui alliera la culture occitane avec de la musique et une séance de yoga. Donc, nous, on est ravis. Même nous en tant que bénévoles, parce que ça nous fera le plus grand bien à quelques heures de ce gros événement 5, 6, 7 juillet à Tocane.
Du yoga à la Félibrée. Non, mais tu veux tout révolutionner. Ça va pas, ça.
Alors, je t'avoue quand même, Jean-Claude, que pour une fois, je n'y suis pour rien.
Ah.
Mais oui, enfin, l'idée, je t'avoue que l'idée nous a séduites parce qu'on s'est dit, pourquoi pas, effectivement, ouvrir la porte à d'autres horizons.
C'est une excellente
idée.
Le
yoga, on n'avait jamais fait, puis on a l'occasion de faire rentrer de la musique occitane sur un autre univers qui est le nôtre. Donc, bien évidemment qu'on a répondu oui.
Est-ce qu'il y a comme ça d'autres surprises ? Est-ce qu'il y a des choses...
Alors, il y aura des choses très surprenantes. Et notamment, je tiens à le souligner, un gros travail qui a été fait par l'équipe décoration de la fête libre de Tocane cette année. Donc, vous allez retrouver bien évidemment les traditionnelles guirlandes de fleurs qu'on a oui. sur les années précédentes. Mais on aura aussi beaucoup de glycines. On commence à les voir à fleurir un peu sur nos photos qui sont partagées sur nos sites respectifs.
Oui.
Et puis, des créations très originales qui ont été faites par l'équipe décoration. On tenait aussi, comme on l'a fait à Montignac l'an dernier, à recycler des matières premières. Donc, ça a été le cas avec notamment des bouteilles d'eau cette année. Alors, j'en dis pas, mais je pense que vous devriez être surpris sur la décoration à Tocane. Et puis, très, très gros travail qui a été fait sur les quatre portes qui vont ceinturer la ville. Là, ce sont toutes les équipes des bénévoles des autres communes. Enfin, Tocane en a fait partie, bien évidemment. Mais on a une dizaine de communes qui sont affiliées à ce projet Fête Libre pour cette année, qui ont fait vraiment un travail remarquable sur les portes. Et puis, je crois qu'ils se sont un peu challengés les uns les autres.
Ah, voilà.
Alors, j'en dis pas plus, mais voilà. Préparer à sortir les appareils photo pour découvrir les portes de la Fête Libre cette année.
Oui, mais c'est vrai que il y a des... Je me souviens avoir vu des Fêtes Libres où les gens avaient fait des choses vraiment extraordinaires. Je crois que c'était à Saint-Pardoux-la-Rivière. Enfin, ils avaient fait une vielle, c'est extraordinaire. Une porte, oui. La porte, c'était une vielle. C'était quand même fou. Ils avaient sculpté une vielle géante et c'était la porte d'entrée de la Fête Libre. Entre autres, parce que chaque année non, parce qu'il y a des fois les gens ils jouaient pas trop le jeu, mais quelquefois oui.
Juste par rapport aux portes, tu as raison de le souligner. C'est important aussi de laisser une trace de la Fête Libre. Et on a aussi plaisir, nous, quand on retourne sur certaines communes, de revoir ces vestiges de Fête Libre. Quand on va sur Saint-Olé, on voit encore effectivement deux portes qui sont sur le bord de la route.
Oui.
Quand on part sur la route d'Angoulême, on a toujours la porte de Bertry qui est présente, qui était une des portes de Verteillac. Donc oui, t'as raison, ça fait partie des choses incontournables, la porte de la Fête Libre. Et d'autant plus quand les communes s'investissent autant, c'est bien, je pense, de le souligner.
Oui, c'est vrai. Et ce qui est aussi très très intéressant, c'est qu'en fait tous les ans, on a toujours besoin de se renouveler. Et c'était très difficile. Enfin, c'est très difficile parce que la Fête Libre, c'est la Fête Libre. Il y a pas bon. Et puis de réussir à intégrer justement dans cette manifestation des choses nouvelles, des choses un peu qui bougent, qui font parler quoi. Surtout, c'est ça, je crois. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ça, je crois, le but de parce que notre culture, notre langue, etc. Elle n'est pas figée, elle n'est pas immobile. Il faut la faire évoluer. Alors, si tu veux bien, on va faire une petite pause musicale. Alors, on va écouter Moisbat, la fille de Marzac, que tu connais, je suppose, que tu as déjà entendu.
Mais oui, je connais bien Moisbat. Ça fait longtemps qu'on les connaît.
Et puis, ils sont à la Fête Libre,
parmi les musiciens, parmi les musiciens, il y a des Tocanais, donc c'était important pour nous de pouvoir les programmer cette année. Et puis, oui, ils seront sur le concert bal de clôture le dimanche de la Fête Libre, donc le 7 juillet.
Voilà. Eh bien, on va écouter et puis on se retrouve après.
L'enfant de la vigne de la plus en échantada.
Voilà, donc on a écouté Moisbat, la fille à des Marzac. Christelle, je voudrais que tu nous parles, je crois que ça te tient beaucoup à cœur, et c'est toi qui en es à l'initiative depuis la Félibrée de Vertillac, je voudrais que tu nous parles de la soirée Enfants.
Oui, alors la journée des enfants, j'y suis un peu à l'initiative, oui, je t'en remercie. J'étais à l'époque secrétaire du comité Félibrée à Vertillac, mais je tiens à souligner qu'on avait une aide très précieuse de l'équipe de Vertillac, qui a accompagné le projet, et puis surtout à mes prédécesseurs au Bourna qui se sont dit « Allez bingo, c'est le moment d'y aller ». Donc on a commencé en 2014 à Vertillac, on fêtera les 10 ans cette année. Cette journée scolaire, elle a été prônée parce qu'on se rendait compte que c'était important de transmettre nos valeurs, que ce soit de langue, de partage auprès des jeunes. On avait invité à l'époque 400 enfants qui étaient principalement sur le bassin de Ribérac-Vertillac, et puis les élèves occitanistes du département. Et puis petit à petit, en connaissant bien les instituteurs, enfin les professeurs d'occitan du département, on s'est dit qu'on pouvait élargir éventuellement à d'autres écoles. Et puis je pense que le pari est réussi, puisque 10 ans après, on est à 1200 élèves qui viennent de tout le département, que ce soit de la maternelle, donc en école bilingue, jusqu'au lycée. Donc là, vraiment, c'est la grande journée intergénérationnelle. Alors, pour rappel, en fait, ces enfants arrivent dès le matin 9h avec découverte des métiers traditionnels. Donc ça va de la batteuse, la trieuse, les tracteurs anciens, parce qu'ils aiment beaucoup les enfants en général.
Surtout les garçons.
Mais pas que, bien évidemment, puisqu'on leur fait écouter la langue sur toute cette matinée. On leur fait découvrir nos instruments de musique, un peu de danse. Et puis je remercie également tous les artisans qui sont présents dès le vendredi matin, qui viennent spécifiquement pour montrer leur savoir-faire aux enfants. Et puis je pense que ça n'a pas de prix, c'est faire ce partage de valeurs, leur faire toucher la matière, ce qui est important,
oui,
et puis leur faire découvrir leur univers.
On a
des jeunes qui sont venus il y a 10 ans, qui reviennent avec plaisir, et ça pour nous c'est un succès formidable.
Oui, moi j'ai vu à Aimé, donc, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, j'ai vu justement la partie où on partait du blé, et puis après c'était donc les différentes sortes de blé, différentes farines, etc. Ça c'est vraiment nouveau et c'est très intéressant.
Oui. Oui, tout à fait. Les enfants sont très contents de découvrir ça.
Oui.
Et donc ensuite, ils prennent un pique-nique tous ensemble. Et à l'issue de ça, on leur offre un concert, bal. Donc là, imaginez bien 1200 enfants qui dansent tous ensemble. Des petits de 3 ans jusqu'aux ados ou pré-ados. C'est véritablement un moment de partage comme on les aime.
Ah oui, il faut voir les vidéos.
Et donc cette année, ce sera un bal électro. Donc là, c'est très nouveau. Et comme tu disais, ça nous montre aussi que la culture occitane, elle est loin d'être morte.
Oui, parce que moi, quand on voit les vidéos là, justement des soirées balles, quand Nicolas les faisait danser, c'est extraordinaire. Ils sont heureux, ils sont contents comme tout de danser, et puis Nicolas aussi est très heureux. Voilà, et donc maintenant, ce sera électro, ce sera encore plus moderne. C'est parfait.
Oui. Alors, on leur avait lancé le défi à Gilles Debec de Lièvre et Nicolas Poche, justement de faire quelque chose d'un peu électro, c'est-à-dire qui colle à cette nouvelle culture.
Oui.
Et ça a déjà été programmé dans d'autres cadres que la Félibrée. Et là, je suis ravie qu'ils puissent venir cette année pour faire partager aux enfants qui seront à Tocane.
Alors dis-moi, Christelle, encore confidentiellement, puisqu'on est sur Radio Grand Air, tu vas bien nous donner un scoop encore. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau?
Plein de choses, mais tu as raison, on essaie de se renouveler un petit peu chaque année. Donc là, on nous avait dit ce serait bien que dans le cadre de la Félibrée, on puisse nous montrer un peu comment danser pour être plus à l'aise sur les concerts bals du soir. Donc là, cette année, on a décidé de faire un fil rouge autour de la danse. Donc on va mettre une scène avec des musiciens à disposition, un parquet. Et puis surtout, je remercie tous les intervenants qui vont intervenir, donc c'est le cas de le dire, sur cette scène ouverte de danse de 14h à 18h. Donc là, on n'a pas besoin d'être bon danseur, il suffit d'avoir envie d'apprendre. Et puis voilà, ce sera des petites séquences de 20 minutes, une demi-heure, en fil rouge tout l'après-midi. Et puis voilà, si vous voulez venir partager une danse avec nous, c'est avec plaisir.
Excellente idée.
Donc ça fait partie des petites animations, en tout cas de plus à Tocane. On aura bien évidemment les inconditionnels qui reviennent depuis maintenant 4 ans, c'est la scène ouverte le dimanche après-midi. Et là, c'est plutôt sur de la musique, alors musique traditionnelle, mais qui peut être aussi très contemporaine. C'est l'occasion aussi aux jeunes de se faire connaître. Là, pareil, on a un parquet pour que les gens puissent venir danser. C'est sur la place des Irlandais, le dimanche après-midi, de 14h à 18h30. On a été obligé de rallonger un peu les horaires parce qu'on avait beaucoup de demandes encore cette année. Et puis après, dans les nouveautés, excuse-moi parce que j'en ai plein, bien évidemment. On a fait un très gros travail avec les équipes d'AutoCAD autour des métiers traditionnels. Donc là, tu as raison, on avait fait le blé. Années, on va renouveler le blé parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup.
Et oui.
Mais cette année, on a fait une grosse partie sur le bois. Donc ça va de l'écarissage, donc de la bille de bois, jusqu'à la transformation complète d'un petit objet en bois.
Ah oui.
Et où là, les enfants seront invités à participer voilà, à de la sculpture, à des choses comme ça. Et on aura notamment les enfants de la MFR de Siorac qui vont intervenir, qui sont déjà venus avec nous pour une journée d'initiation lors de la Latière. Au courant mai,
ah oui.
Qui ont trouvé ça sensationnel de pouvoir participer avec des gens expérimentés et qui du coup ont demandé à venir nous soutenir le vendredi de la Félibrée. Ils seront là également sur la base du volontariat, je tiens à le signaler, le samedi et le dimanche.
Et bravo, et je pense que c'est mon ami Pascal Laurent qui doit être à l'honneur pour ce qui est tout ce qui
et
est
ben
bois.
Oui, entre autres.
Et Michel Sabouillard,
bien sûr. Mais je suis aussi contente parce qu'on a François Gendron qui était président du comité Félibré de Verteillac qui a rejoint les métiers traditionnels donc cette année à Tocane. Et puis aussi un petit clin d'œil à notre Jacou qui était notre référent métier traditionnel à Montignac l'an dernier et qu'on a réussi à convertir, qui a rejoint l'équipe du Bourna à l'issue de la Félibré.
Oui.
Et qui fait un très très gros travail aussi sur cette partie-là. Et voilà, c'est une grande fierté pour nous d'avoir inclus cette partie métier traditionnel et notamment sur la partie du bois pour la Félibra Tocana.
Eh bien bravo, encore bravo. Et voilà, il faut tenir bon, rester. Pour la première fois, on a une jeune femme présidente du Bourna, voilà, qui fait un peu bouger les choses. T'es pas toute seule, mais c'est très bien. C'est félicitations.
Non, je suis pas toute seule.
C'est un ancien qui te le dit.
Ouais, c'est gentil.
Je peux me permettre de le dire, puisque je suis un ancien.
Ouais, c'est gentil, Jean-Claude. Mais c'est vrai que sans toute une équipe autour de moi, je fais rien. Et puis, je tiens à remercier aussi tous mes prédécesseurs qui ont été à la tête
bien
des Bourna, qui ont déjà impulsé beaucoup, et puis qui sont aussi encore mes mentors, que j'appelle très régulièrement pour prendre des conseils avisés.
Tu as raison, il faut les
appeler. Parce que voilà, ils ont permis aussi de renouveler la Félibrée, et puis on garde bien évidemment oui. La Félibrée telle qu'elle a toujours été, avec la traditionnelle cour d'amour, par exemple, la tolade, oui. Le défilé, la
bien
messe.
Sûr, bien sûr.
Ça fait partie du programme, et oui. C'est aussi pour ça qu'on vient à la Félibrée. Mais tu as raison, voilà, nous, c'est peut-être la jeune génération qu'on incarne, et on avait besoin de montrer que c'était loin d'être une fête de vieux, comme moi j'ai pu l'entendre quand je suis arrivée en Dordogne, et que voilà, on peut trouver plaisir à venir à une Félibrée, qu'on soit tout petit ou qu'on soit un petit peu plus âgé.
On est bien d'accord. Mais écoute, merci beaucoup Christelle, et félicitations. Et puis bon, je sais que vous avez invité le soleil, donc il n'y a pas de problème, il sera là.
Mais on croit ses doigts en tout cas.
Voilà, merci, à bientôt.
Et bien avec grand plaisir, et puis à bientôt, merci à Radio Grand Air, et on se retrouve à Tocane les 5, 6, 7 juillet.
C'est d'accord. Alors, on ne va pas changer nos habitudes, on va parler toponymie.
Très important.
Voilà, on va parler toponymie dans notre émission. Parler nostro lingo. Alors, en toponymie, il y a souvent ce qu'on appelle des doublés tautologiques. Ça veut dire qu'il arrive que des noms de lieux soient composés de deux mots qui veulent dire la même chose. Il s'agit le plus souvent de noms anciens, noms de montagnes et de rivières surtout. Voilà, on dit que ce sont des doublés tautologiques, ça vient du grec, la tautologie qui veut dire la même chose. Voilà, donc on en a dans tous les pays. Et quelques exemples dans les pays occitans, on a par exemple le puech de la pale dans le Cantal. Le pêche de la pale. Alors pêche, bien sûr, c'est l'occitan colline. Et pale, c'est une base qui veut dire hauteur. Donc c'est la colline de la hauteur. On a le suc du pal en Ardèche, suc du pal, voilà, donc c'est deux bases toponymiques, suc et pal. On a aussi à Montastruc, en Lot-et-Garonne, le pêche de la tuque. Alors le pêche de la tuque, ça veut dire la colline de la colline, une Otuco. C'est ce que c'est de l'excellent occitan. Le Puy du Tuquet, en Dordogne, après Isaac d'Excideuil. Le Puy du Tuquet. Et en Tarn-et-Garonne, on a le Pêche du Tuquel, qui est, c'est la même chose. À Tarascon, on a le Roc de Quier. Le Roc, donc, et Car, qui veut dire pierre rocher. Le Pic de la Serre, en Ariège. Ou le Tuc de la Serre, dans la Haute-Garonne. On a Moncu, bon, qui est bien connu, et dans le Lot. Et on a Cumon, bien sûr, ici, en Périgord. On a d'autres Moncu, dans la Haute-Vienne. Cumon, en Dordogne, bien sûr. On a un Cumon aussi en Tarn-et-Garonne. Et on a aussi Cocumon, en Lot-et-Garonne, qui est aussi Coq-mon. C'est la même chose. Et voilà. Et alors, on a un Mont-Cocu, c'est très original, en Bazac, en Haute-Vienne. Et c'était à Monte-Cuculo, en 1070. Mont-Cuyul, Monte-Cuculo, en 1358, qui est devenu Mont-Roc. Cocumon, voilà, donc, dont je parlais, donc. Et on a aussi des hydronymes, c'est-à-dire des ruisseaux. On a le ruisseau du Rieux-Tor. Donc le ruisseau du Rieux, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. On a le ruisseau du Rieux-Sec dans le Gard. Et on a à Montcarré, en Dordogne, le ruisseau du Grand Rieux. Le ruisseau du Grand Ruisseau. C'est curieux quand même. Ensuite, on a le bois du Luc. Oui, ben encore faut-il savoir que le Luc, c'est le latin lucus, ça veut dire bois. Le bois du bois. Et on a en Gironde et en Lot-et-Garonne aussi le Bos du Luc, le Bos du Luc. Voilà, on appelle ça une tautologie, on dit aussi une redondance, et on en trouve pas mal. Et alors justement, on a travaillé là sur la félibrée de Tocane avec mon ami Philippe Christophe, et c'est vrai qu'on trouve encore aujourd'hui des toponymes, des noms de lieux, qui sont très intéressants. On a par exemple un endroit qui s'appelle, à Creissac, le pont d'Ambon. Ambon, A-M-B-O-N. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le pont d'Ambon? Et puis quand on cherche, on se rend compte que c'est la même chose que Ambès, le bec d'Ambès, donc c'est du latin. Ambé, qui veut dire deux, hein, quand on dit quelqu'un qu'il est ambidextre, c'est-à-dire qu'il a droit des deux mains. Ambe, donc c'est les deux. Et effectivement, là, à ce pont d'Ambon, il y a deux ruisseaux qui se rejoignent. C'est extraordinaire. Comme nos anciens, ils avaient la... Alors c'est un mont, c'est un mont gaulois et latin. Donc ça veut dire que ça remonte à la nuit des temps. Et c'est intéressant. Hein. On a aussi Rochereuil qui est à côté. Voilà, c'est très intéressant quand on réussit à trouver comme ça des mots très très ancien, mais qu'on réussisse à trouver ce que ça veut dire. Parce qu'on a encore aujourd'hui des toponymes dont on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et les gens recherchent, les gens font des recherches. À partir du moment où on n'a pas des formes anciennes, ça a été déformé. Puisque bon, au départ, c'était pré-indo-européen, puis c'est devenu celte, gaulois, puis romain, et puis germanique, et puis occitan, et puis français. Et à force de chaque langue ayant déformé l'autre, bon, on arrive aujourd'hui qu'on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Alors voilà, donc c'est l'intérêt justement de la recherche toponymique, de dire je ne sais pas, mais je vais chercher et je vais tout faire pour savoir.
Mais justement, Jean-Claude, à propos des tautologies dont tu parles là, est-ce que ces tautologies n'arrivent pas au moment où on se met à transcrire quelque chose pour le compte de l'administration? Parce
oui, oui.
Ruisseau du Rieux Vert, par exemple, c'est oui. On reprend un nom populaire.
Tu as raison.
Il est bien probable que les gens de l'époque ne l'appelaient pas Ruisseau du Rieux Vert.
Certainement. Certainement que les gens, ils savaient, eux, ce que ça voulait dire. Mais à partir du moment où ils s'appelaient le Rieux Vert, l'Ourie ou Vert, Ruisseau Vert. Et puis on a décidé, le Rieux Vert, ça ne veut rien dire. Donc on l'appelait le Ruisseau. Parce qu'on n'a pas su ce que ça voulait dire, rio vert. Donc il a fallu dire le ruisseau qui s'appelle rio vert. Voilà. Oui, tu as absolument raison. Ce sont les géographes, les cartographes, c'est les gens, quand ils sont arrivés, les cartographes et les géographes du roi, qui ont dit pardon, mon brave, comment s'appelle l'endroit là? Ben, le rio vert. Alors il a marqué le ruisseau s'appelle rio vert. Ruisseau, rio vert.
Et donc c'est le passage de l'oral à l'écrit, finalement, qui provoque
c'est tout à fait ça.
Ça.
Oui, Marie-Thérèse. Non, c'est pas Marie-Thérèse, c'est Marie-Hélène.
Non, mais on m'a tellement souvent appelé Marie-Thérèse.
Ah bon,
oui, à mon grand regret, mais ah, bon, voilà, c'est comme ça.
Bon.
Alors on rappelle l'événement 5, 6, 7 juillet, La Félibrée à Tocane-Saint-Apre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout près de Ribérac. Oui. Il y a une vingtaine de kilomètres de Périgueux, hein, voilà, c'est facile à trouver sur la carte. En Périgord, vous allez passer 3 jours autour de la culture et des danses aussi folkloriques. Joli rendez-vous, on aura la chance de te croiser Jean-Claude,
oui, sur place. Oui, il y a un programme vraiment très 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 complet, très intéressant, même trop, parce qu'en fait il y aura certainement des choses qui vont se dérouler
en même temps.
Mm-hmm. Et on ne peut pas être partout à la fois.
Voilà, nous aurons des invitations à vous offrir, on remercie le Borna, on les fera gagner très prochainement sur la radio, soyez donc à l'écoute. On rappelle aussi quelques rendez-vous en ce mois de juin. L'association Les Amis de la Langue d'Oc à Bergerac se réunissent une fois par mois, je crois que c'est le vendredi. Ça se passe à l'espace Georges Sherpak à Bergerac, oui. Avec le combo d'associations qui se réunit, les abbayes bergeracoises notamment, oui. Pour faire justement une rencontre, un café Oc. Voilà, donc si on veut participer, on peut, hein. C'est, je crois, Gladys Beyla, oui. qui organise ce rendez-vous.
Voilà, si on veut entendre parler la langue occitane, la parler soi-même, et puis si on ne la parle pas, simplement le plaisir de l'entendre, et puis bon, si on peut, on traduit ce que, il n'y a pas de problème, c'est pas. C'est pas une association d'intégristes, pas, voilà. Ça s'appelle le Café Oc, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, mais bon, voilà. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est d'y aller pour entendre parler la langue occitane, parler occitan, mais si les gens qui l'entendent, qui la comprennent pas ou qui la parlent pas, ils peuvent quand même y aller, c'est quand même très sympathique.
Voilà. D'autres rendez-vous, Marie-Hélène?
Alors, c'est un petit peu loin, mais vous pouvez déjà prévoir, parce que j'imagine qu'il y aura un moment où il n'y aura plus de place. C'est le cinquantenaire de l'école occitane d'été, 17-18 août 2024 à Villeneuve-sur-Lot. Donc, ce sont des stages d'apprentissage, de perfectionnement, de pratique de la langue occitane. Tout ça en immersion pendant donc une semaine. C'est très vivant. Au bout d'une semaine, vous commencez à rêver en occitan. C'est super, j'adore. Alors donc, pour tous âges, hein, donc il y a activité pour les adultes, pour les adolescents, pour les enfants. Des cours le matin, des ateliers de chant, des ateliers de danse, tout un tas d'ateliers différents de tous ordres, dans tous les domaines d'activité. L'après-midi, donc, des ateliers complètement distincts, mais toujours en occitan, soit en languedocien, soit en gascon, soit en limousin. L'année dernière, il y avait aussi du catalan.
Oui.
Donc, si vous voulez des cours intensifs, vous allez à l'école toute la journée. Sinon, vous vous détendez l'après-midi, il y a aussi des promenades. Et puis cette année, le 15 août, il y aura vraiment une grande fête pour fêter ses 50 ans avec tout un tas d'intervenants. Il y aura des spectacles, des concerts, des bals, voilà. Et puis donc, et aussi un marché de producteurs. L'année dernière, j'y ai assisté, c'était très sympathique, oui. Au centre, en plein centre de Villeneuve-sur-Lot. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, on peut aussi y participer pour une partie seulement de la semaine. Donc c'est du 11 au 17 août cette année, vous pouvez aller visiter le site. Alors vous avez oustaugascon.org. Hein, O-S-T-A-U, gascon.org, qui vous donne le programme, et vous avez aussi le site de l'école occitane d'été, eoe-oc.org. Voilà, donc ça sera exceptionnel cette année, puisque on fête les 50 ans de l'école occitane.
Et on pourra y rencontrer Jean Rioust, qui est un des fondateurs,
oui,
de l'école
tout à fait.
Occitane. C'est le dernier, ils étaient trois, mmh. C'est le dernier survivant. Voilà. Et donc, Jean Rioust, toujours bon pied, bon oeil, il sera, voilà, présent. Ouais. Il animera un atelier de toponymie, justement, puisque, voilà, c'est sa spécialité. Et c'est un peu grâce à lui que ce que je vous dis, c'est un peu lui qui me l'a soufflé.
Alors, il y a aussi des niveaux différents en cours. Oui. Vous pouvez être débutant, vous pouvez être intermédiaire ou expert, étudier des textes sur la vie courante ou des textes de la littérature ancienne. À votre gré, toutes les combinaisons sont possibles. Voilà.
Joli programme. Merci Marie-Hélène. Et puis, on rappelle que Jean-Claude Dugros, toujours en tournée cet été avec ses interventions. On sait que Jean-Claude a donné une intervention il y a quelques jours à la Grange de Lanquet. C'était le samedi 8 juin pour l'origine, la formation et l'évolution des noms de personnes. D'autres rendez-vous, évidemment, Jean-Claude, je suppose, sur l'agenda.
Oui, il faudra bien se poser un jour quand même, parce que là, ça commence à...
Tu as le temps encore.
Oui, oui, mais bon. Bon.
On va se quitter, on arrive au terme de l'émission, le temps passe vite, mais on se retrouve, c'est promis, le mois prochain, même si c'est le début des vacances, on se retrouvera au mois de juillet, on aura plein de choses à vous raconter dans votre émission. On va se quitter en musique, évidemment.
Oui,
mon cher
Grambal Dub,
ouais.
Nostromar, notre mère, pas mère, notre mère.
Ah, on n'a pas mentionné la rencontre des ateliers d'Occitan à La Force.
Ah, très oui. Important aussi.
Très, très bientôt.
Le 28 juin, le vendredi 28 juin.
Voilà, oui, oui, j'ai failli arriver,
oublier. Oui, arriver à 16h30 pour
très important.
Démarrer à 17h. Vous allez voir, c'est des amateurs, mais c'est vraiment très, très intéressant. Il y a des gens qui font du bon boulot. Il y a des, voilà, ce sont effectivement les ateliers de la région, les ateliers d'Occitan de la région qui se regroupent. C'est la fête des écoles, c'est la fête de fin d'année.
Ah, puis alors le groupe de Saint-Pierre d'Aïro, La Force, oui. A en plus écrit quelque chose.
Oui, oui.
Donc c'est vraiment super. Oui, c'est vrai. Il faut y aller.
C'est noté. Je vous dis à Dichat.
À Dichat.
À Dichat.
À bientôt.
Au revoir.
De mar in anamar, da lluent de la mar, les panautem nun, les nauturisun, que escapsulus i pari de nebio castanyie, sumiant de voluntat, anen contrabandie, anen contrabandie, anen... Cade vent, cade fluello, en la mar grosson rabia, vapor de nebio e de sireno, si si trepado er banya, s'esperdin in la peirado, luttatori di taio vent, saren volat aire l'ovado, Siage de embastiment, que se va e de manven, cade fluei on cade vent, lupo lui subent un conte, fumo tici a val al port, marinie, fi del viage, ten la barra del timun, l'urusari di naufragi, nos ravela real barcun. De mare in anamara, via Panama al suretto, via chilo di poeto, che bulego giù nel nuece, poblade de culimbre de sireno, la mar de carmarino que promete mantenren. De mare in anamar, a que lo di cursare, garzum resa dal vento, alla costo de levori, rebele tamalori, cambuse e pantai, se rendere in pamai, al tempo alla curenti. E la mar di gaga, garzum de la nuece, andava in asa uno a fiere il caffè, e tornando a reire, mingiava in la frittà, verdo de mento ed erbo de sapè. Mar rosso da chei, che banderi berribo, seghior della veia, le salta forda reire, della dario Colo, misterioso morgano, manna l'amo lontano, come un africo caribò. Che se va e de man vleng, cade più e on cade ven, lupo lui subento un conte, come tici a val al por, marinie, si del viage, ten la varo del timun, l'urusari di naufragi, nos ravenare al barco. Sanno più tuo pan, il pateo di un labuteio, partire in per Amsterdam, come in cergio la gavaro, ci slarruto del burdel, e se arrivo l'abatesto, vendare in ciaro la pel, che se va e de man ven, cade più e on cade ven, lupo lui subento un conte, come ti ci avala al cuore, marinie, si del viage, la varo del timun, l'urusari di naufragi, nos ravenare al barcun, l'urusari di